Bonjour. Bienvenue à chacun. Bienvenue aux enfants, aux plus jeunes, aux habitués et à tous les autres également, quel que soit votre parcours, quel que soit ton parcours, sois le bienvenu. Bienvenue Roger, toujours un plaisir de te voir parmi nous. Bienvenue Serge Carrel, même si vous ne le connaissez pas. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou peut-être lu, puisqu'il travaille pour la FRE. La FRE, c'est notre famille d'églises qui regroupe environ 50 églises en Suisse romande. Il est journaliste et du coup, il y a de nombreuses occasions de le lire ou bien d'entendre sa voix. Alors, une fois que vous l'aurez entendu, peut-être que vous ferez le lien tout à l'heure. Pour certains, ce matin, on a déjà été accueillis par le groupe de jeunes avec l'odeur des tresses et un bon petit déjeuner. Merci à vous d'y avoir participé, parce que c'est pour soutenir leur camp de ski, même si ce n'est pas encore la saison. Et merci à vous, le groupe de jeunes, de votre implication et de votre service dans l'Église. Dieu nous accueille ce matin. Il pose son regard, un regard bienveillant, plein d'amour et de joie sur nous. Un peu comme un papa ou une maman qui pose son regard sur son enfant qu'il aime tendrement. Dieu pose ce regard sur chacun d'entre nous, en particulier. Nous qui avons choisi plus ou moins d'être là ce matin, nous qui lui consacrons ce temps de culte, un temps à part pour nous rassembler autour de lui et de sa parole. Et comme un enfant qui doit se sentir accueilli, se savoir aimé, avoir l'occasion justement de sentir ce regard plein d'amour qui est posé sur lui, c'est quelque chose qui est important pour son développement, pour sa croissance. Pour nous aussi, se savoir aimé, se savoir observé ou regardé par Dieu avec ce regard bienveillant, ce regard plein de tendresse, c'est quelque chose qui est important au niveau de notre foi, mais cela impacte aussi tous les autres domaines de notre vie. Et cette semaine, avec le début de l'été, c'est la fin de l'année scolaire qui approche, début des vacances, je me demandais comment pouvoir vivre et sentir ce regard bon et plein d'amour posé sur moi. Dans des semaines un petit peu chargées, comment chercher, comment vivre la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est ce qui pour moi représente un moment idéal où je peux justement sentir le regard d'amour de Dieu sur moi, être dans sa présence. Et comment être transformé pour que, à mon tour, je puisse avoir ce regard sur ma vie et autour de moi. Ce n'est pas si facile que ça dans toutes nos activités, avec toutes nos distractions, comment pouvoir prendre ce temps à part? Il y a bien des moments possibles, quand même. Justement, le dimanche matin, on est là pour ça. Mais cette semaine, j'avais besoin de vivre ce temps seul aussi, et de pouvoir l'ancrer dans mon quotidien. Et j'ai réalisé que, même si ce n'est pas toujours possible, parfois c'est plus facile que d'autres aussi, ou bien des fois c'est plus nécessaire que d'autres, j'ai réalisé qu'on pouvait quand même prendre ce temps pour s'évader. J'ai réalisé que je pouvais prendre du temps pour moi devant Dieu, à l'image de Jésus. Jésus qui prenait du temps à l'écart pour prier. Il est où Jésus? Il est à l'écart, il n'est plus là. Il prend une pause et il prie. On n'en sait pas beaucoup plus. Comment il prie, comment ça se passe. Mais il est à l'écart et il prend du temps pour Dieu. Et au travail, dans une école pleine d'élèves et de collègues, c'est pas toujours facile de trouver un endroit à l'écart. Et pourtant, alors là il y a une photo, si on peut la voir, et pourtant, à 5 minutes à pied de mon travail, un petit bout de campagne, tranquille. Alors, c'est honnête, hein, c'est pas le centre-ville, et c'est pas la campagne non plus. Donc, C'est pas complètement parfait. Il y a des chantiers qu'on n'entend pas loin. Il y a un stand de tir de temps en temps. Mais il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire une parenthèse avec le travail, le quotidien, de se laisser rejoindre et de sentir le regard aimant, bienveillant de Dieu sur nous. Alors ce matin, je nous souhaite de pouvoir prendre le temps de couper, de chercher la présence de Dieu au quotidien, que nous puissions le vivre tous ensemble durant ce culte que nous voulons lui consacrer. Mais ce matin, je souhaite aussi que durant nos semaines au travail, ou durant les vacances, ou à la maison avec les enfants, que nous puissions aussi nous mettre à l'écart, prier, être à son écoute, et qu'on puisse sentir ce regard bienveillant et plein d'amour. Alors je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous accueillir ce matin et de nous permettre de nous retrouver ensemble. Tu te réjouis de nous voir ici, devant toi. Nous te remettons ceux qui sont souffrants et qui n'ont pas pu nous rejoindre, ceux qui nous manquent, et que nous puissions vivre ce temps sous ton regard. Je te prie que tu nous donnes de toujours être plus proche de toi, de grandir dans ta connaissance, dans ton intimité. Et pour cela, Seigneur, que tu bénisses ce temps de culte, mais que tu nous permettes de te laisser de la place dans notre quotidien, tout au long de nos semaines. Amen. Alors, nous allons poursuivre le culte avec un temps de louange. Merci à Catherine et aux musiciens.
Bonjour et merci Joël pour ces paroles. C'est vrai que Jésus nous accueille par sa grâce et on veut le chanter ce matin. Par sa grâce, par la grâce, nous venons nous présenter devant lui, non par nos forces, non par nos efforts, mais par sa grâce. Et il nous accueille. Je vous invite à vous lever.
Bye.
je repensais à Zachée, le culte de fin de caté. Zachée qui s'est élevé pour voir Jésus. Et qu'a fait Jésus ? Il l'a invité à descendre les pieds dans la terre, parce que Jésus était en bas, les pieds dans la terre. Et c'est là qu'il veut le rencontrer, et nous aussi, il veut nous rencontrer, parce qu'il est là, dans la terre, avec nous. Et je vous invite à le chanter, parce que je suis sûre que si vous êtes là ce matin, c'est qu'il a fait des grandes choses dans votre vie. Amen. Et alors, je vous invite à le chanter et à dire qu'il est incomparable.
Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. L'homme misérable, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure. Qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts.
Marion Muller-Collard écrit « Comme Zachée, je te cherche, mon Dieu. Et si je suis trop petite, tu mettras un arbre sur mon chemin pour me hisser jusqu'à toi. Je te cherche, mon Dieu. Et si dans ma quête, je m'envole vers de trop hautes sphères, tu me lesteras du poids concret de ta parole pour m'incarner avec toi. » Je te cherche, mon Dieu, et si je m'égare dans des labyrinthes de codes et de lois, tu diras simplement, aujourd'hui, moi je viens chez toi. Je te cherche, mon Dieu, mais tu me précèdes toujours dans ma quête. Si je crois te trouver, tu es déjà ailleurs. Et dans l'espièglerie de notre jeu de cache-cache, tu me conduis patiemment vers le royaume. Tu me cherches. Jésus nous cherche tous. Et je vous propose ce chant, Jésus, espoir des nations. Et après ce chant, un court temps de prière où on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies.
Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps, tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es la roche solide et sûre, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité,
te remercier pour ce magnifique privilège de pouvoir te connaître. Et moi, je veux te remercier parce que, oui, tu es celui qui nous donne, qui m'a donné beaucoup d'amour, d'amour à partager. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Merci Seigneur parce que tu es un roc solide et sûr. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Amen.
Merci Seigneur parce que tu ne nous donnes pas ce que nous méritons et tu nous donnes ce que nous ne méritons pas.
Amen.
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 Parce que j'ai bien joué à la maison.
Amen. Merci parce que tu nous dis simplement, moi, aujourd'hui, je viens chez toi. Merci parce que tu veux habiter nos vies. Amen.
Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu. Me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, me envahit par la joie qui grandit tout au fond de toi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia.
Je vous propose de terminer ce temps de louange par le Notre Père, ce magnifique Notre Père de Glorious.
Que ton règne vienne, que
Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir.
Merci Catherine de nous avoir conduits dans ce temps. Merci Seigneur d'être avec nous. Alors, pour la suite du culte, on va laisser les plus jeunes rejoindre leur groupe. Et je vais prier pour eux, pour les moniteurs et pour la suite du culte à chacun. Merci Seigneur de pouvoir partager le culte ensemble, toutes ces générations, avec ces enfants, avec ces plus jeunes et ces plus âgés aussi. Merci pour les moniteurs qui les prennent en charge dimanche après dimanche. Que tu les bénisses chacun et qu'on puisse tous ensemble sentir qu'on fait partie de ton corps, de ton Église. Et Seigneur, que tu bénisses la suite du culte dans les groupes en bas pour les jeunes et que tu nous conduises ici à l'écoute de ta parole, que tu conduises Serge dans ce qu'il nous amène, dans ce qu'il a préparé de ta part. Que tu ouvres nos cœurs à l'action de ta parole, à l'action de ton esprit. Amen. Alors, il y a deux lectures, des textes bien connus pour le début de cette prédication. Le premier dans Luc 18, les versets 9 à 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière : Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré, et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait : Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et une deuxième lecture dans Éphésiens. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter.
Vous ne m'écoutez pas là. Beaucoup. En fait, il obéit et il croit qu'il est accepté par le Seigneur lui-même. Le collecteur d'impôts, lui, vous imaginez un peu la scène, il est là, tout au fond, peut-être même qu'il est derrière la porte. Vous savez, il y a peut-être une... Il faut juste regarder s'il ne faut pas quand même le faire entrer. Hein. Lui, il ne s'empare de rien du tout. Il est au fond de l'église, il est conscient de son indignité face à Dieu et il demande au Seigneur de prendre pitié de lui. La religion ou l'homme religieux dit « J'obéis, donc je suis accepté ». L'évangile affirme « Je suis accepté, donc j'obéis ». Parce que Jésus, le Fils du Dieu vivant, a fait don de sa vie pour moi, pour nous, parce qu'il est mort sur la croix, pour moi, pour nous, nous sommes acceptés. Dieu m'accueille, Dieu nous accueille. Mon obéissance, elle est importante, mais elle est toujours un geste second, un geste qui vient comme réponse à ce oui de Dieu qui retentit dans ma vie, qui retentit dans nos vies lorsque je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Il y a sûrement des gens qui sont très taillés en informatique par ici. Hein. Vous savez ce qu'est un fonctionnement par défaut ? Ça consiste en quoi concrètement, un fonctionnement par défaut lorsqu'on est face à son ordinateur ? Ça se passe tout seul. C'est automatique. Vous cliquez sur « Imprimer » et vous avez tout qui est fait pour que ce soit votre imprimante qui entre en fonction. Vous avez une mise en page Word. Si vous utilisez Word, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont adeptes des logiciels libres, ce qui est très bien, mais voilà. En matière rédactionnelle, nous, on travaille pas mal avec Word. Donc, lorsque vous avez une mise en page, c'est typique. Il y a une mise en page, par défaut, elle est là sans que vous fassiez quoi que ce soit. Le cœur humain, il est comme programmé par défaut pour être orienté dans une dynamique du faire pour être, dans une sorte de religion des œuvres. Et je vous propose maintenant de voir différents exemples tout concrets de ce fonctionnement par défaut que l'on peut reconnaître non seulement chez les autres autour de soi, parce que souvent on est très avide pour détecter ça chez autrui, et qu'on peine parfois à le détecter chez soi-même, et je crois que ça existe assez profondément. Dans le monde de la religion, mais aussi des personnes moins religieuses, quand les circonstances de la vie tournent mal, souvent nous nous mettons en colère contre le Seigneur, ou contre nous-mêmes. Parce que, selon nous, tous ceux qui sont justes méritent une vie agréable. Alors, je sais bien que les jeunes voix n'aiment pas trop les vaudois qui apparaissent un peu comme, qu'est-ce qu'il faudrait dire, sans être trop... Merci beaucoup, magnifique. Non, mais c'est un peu les campagnards de la Suisse. Et lorsqu'on entre dans la culture vaudoise un peu profonde, vous savez, alors elle est peut-être en voie de disparition, mais elle fonctionne quand même beaucoup en fonction de son niveau de moralité. Hein, je vais souvent rencontrer des gens, puis vous essayez de leur parler de l'évangile, on vous dit tout de suite, en tout cas le bon vaudois, je n'ai ni volé, ni tué, ni trompé ma femme, j'ai une bonne moralité, donc quelque part, Dieu me doit un minimum de reconnaissance et il doit m'aménager une vie heureuse. On entend ça aussi un peu du côté de Genève ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Quand les choses ne tournent pas rond, il est assez facilement, le vaudois, mais peut-être aussi le genevois quelque part, en colère contre Dieu. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter cela? Et on s'est fait un Dieu à notre image, un Dieu qui n'a rien à voir avec le grand Dieu de l'univers, le Dieu qui se révèle au travers de la personne de Jésus-Christ. Il y a de ça quelque temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un à propos de la guérison divine. Et cette personne avait prié, je crois, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de sincérité pour la guérison d'un de ses enfants. Et cet enfant n'avait pas été ou n'a pas été guéri. Et on sentait dans les propos de cette personne un sentiment de colère très marqué, une perception douloureuse d'un événement perçu comme profondément injuste. Dieu avait répondu peut-être à la prière de tel et tel, mais il n'avait pas répondu positivement à ma prière par rapport à la situation donnée. Et on sentait, en discutant un petit peu avec cette personne, qu'il y avait une sorte de vision égalitariste qui prévalait. On devrait normalement tous être traités par Dieu de la même manière. Et c'est injuste que Dieu guérisse l'un et ne guérisse pas l'autre. De manière un peu sournoise, on se met au-dessus de Dieu et on vient à lui dire, écoute Dieu, il faudrait que tu fasses ça. C'est normal. Dans mon esprit, tel que je perçois les choses, tu dois même faire cela, répondre à ma prière. Et je crois que de nombreuses personnes autour de nous entretiennent du ressentiment à l'endroit du Seigneur parce qu'elles ne reçoivent pas de Dieu ce qu'elles croient mériter. L'évangile de Jésus-Christ nous invite à dépasser ce sentiment d'injustice et de colère et à dire, quand les circonstances de ma vie tournent mal, je lutte. Mais je sais que même si Dieu peut permettre ce qui se passe pour ma formation, son amour paternel et maternel demeure là, au sein de mon épreuve, au cœur des difficultés que je peux avoir. Lorsque je vous regarde, et j'y pensais tout à l'heure, certains seulement, parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années que on a l'occasion de se côtoyer, de se connaître, et qu'on voit que et les uns et les autres en prend un peu d'âge. Lorsque je regarde, donc, durant ce temps où j'ai eu l'occasion d'interviewer en Suisse romande, et puis au-delà aussi, pas mal de gens qui confessent leur foi, qui essayent de vivre pleinement l'évangile de Jésus-Christ, j'ai comme ça à l'esprit quelques souvenirs d'interviews marquants où j'ai été parfois surpris et, pour employer un vocabulaire peut-être moins adéquat, un peu bluffé par certaines personnes. Et dans ce contexte de colère que l'on pourrait avoir à l'endroit de Dieu parce qu'une prière qu'on lui a faite sincèrement avec beaucoup d'intensité n'a pas été exaucée, je me rappelle le témoignage de quelqu'un que vous connaissez peut-être ou d'un couple, Manfred et Fleurette Engeli. Et j'ai eu l'occasion avec eux, lors d'une interview, de parler du décès de leur fils, qui était pasteur, célibataire, qui avait autour de la trentaine. C'est des gens qui, voilà, leur fils était atteint d'un cancer, 30 ans, il avait un magnifique parcours de formation, il venait de commencer un pastorat qui s'annonçait prometteur du côté de l'Alsace. Et tout à coup, on découvre chez ce fils un cancer. Et assez rapidement, semble-t-il, ce jeune homme va mourir, va décéder. Vous savez, quand on interviewe quelqu'un, on se dit, ben là, c'est la question à poser. Finalement, comment est-ce que vous avez pris cela? Est-ce que vous avez été en colère contre Dieu? Et là, moi, en tant que pasteur aussi, je dirais volontiers, ben, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la colère, de l'incompréhension qui soit là, de la révolte même parfois qui se manifeste lorsque intervient dans notre vie quelque chose qui nous paraît insupportable, qui nous paraît inadmissible. Et dans ce contexte, ce couple de thérapeutes qui a publié un magnifique livre que je vous recommande, Makarios, publié aux éditions Jessem de Lafray, qui en est à sa 6e édition, qui a plus de 6000 exemplaires qui ont été parus, etc. C'est un très bon livre, je vous le commande. Ce couple, dans ce contexte-là, a cette réponse extraordinaire, mais nous nous sommes soumis au Seigneur. Au plus profond de notre détresse, nous avons accepté la décision du Seigneur et mis un point d'interrogation sur ce qui était en train de se passer. Il y avait une sorte de confession dans ce contexte extraordinairement douloureux de la souveraineté du Seigneur, de sa bonté malgré tout. Et je souligne, malgré tout, 15 fois. Dans le contexte de l'épreuve, l'Évangile ouvre d'autres horizons que celui de la colère et de la révolte contre Dieu. Ce que la religion ouvre d'ordinaire, C'est vrai que la personne religieuse développe une colère, développera sûrement de l'amertume. L'Évangile ouvre des horizons de confiance en Dieu malgré tout. Malgré l'épreuve ou la tragédie vécue jusque dans sa propre chair. Un autre exemple de ce fonctionnement par défaut du cœur humain, c'est aussi particulièrement visible dans la manière de fonder notre propre identité, dans la manière dont nous avons à nous justifier nous-mêmes. Souvent, dans la perspective de la religion des œuvres, mon identité et mon amour-propre sont fondés essentiellement sur la quantité de mes efforts, sur mon niveau aussi de moralité. Et cette moralité, au fond de moi-même, me donne une supériorité. Nous nous inscrivons les uns et les autres dans une logique de comparaison où je dédaigne autrui qui en fait moins que moi. Le critère ultime dans ce domaine, c'est la performance. C'est la performance religieuse. Et plus on en fait, plus on existe devant Dieu. Et si on gratte un peu tout cela, on se rend compte que, sur le fond, dans une telle perspective, le salut, il est où ? Il est en moi. Je suis l'acteur et le moteur de ma propre justification face à Dieu. Et cette manière de penser, pour être un peu polémique, traverse toutes les religions. Dans certains cercles bouddhistes, par exemple, on s'extasie devant les temps de retraite silencieuse extraordinaires qui ont été vécus par certains. Si vous voulez être un peu polémique à l'endroit des amis musulmans, vous vous rendrez compte que ce mode de fonctionnement, par défaut, est aussi programmé dans leur pratique des cinq piliers de l'islam. Cette attitude, par défaut, n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Dans une perspective évangélique, mon identité et mon amour-propre sont centrés sur la personne de Jésus, sur celui qui est mort pour ses ennemis, y compris pour moi. Ce n'est que par grâce que je suis ce que je suis. Je ne peux donc pas mépriser ceux qui croient ou qui pratiquent quelque chose de différent de moi. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est de réaliser que le faire pour exister devant Dieu se révèle sans fin. Pour autant que l'on soit doté d'une conscience un peu affûtée, on peut toujours faire plus pour mériter Dieu, pour mériter la divinité. Et quelle tromperie que de penser concrètement que le salut puisse se trouver en soi-même et ne pas réaliser qu'au fond de soi, finalement, il y a une sorte de puits sans fond qui a pour nom le vide. Ce qu'il y a de fondamental dans le message de l'Évangile, c'est que nous sommes invités à quitter la posture où nous mettons notre confiance en nous-mêmes et à nous reposer sur Jésus-Christ. Le fait de confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, le fait de lui remettre les rênes de sa propre vie, le fait de s'unir à lui par la foi, entraîne qu'il partage avec nous sa justice, sa pureté, sa sainteté. Il y a un échange entre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et moi. Il me met au bénéfice de ses qualités, des qualités que je n'ai pas, et il prend sur lui mes échecs, mes déboires et mon péché. Et au travers de cet échange, j'entre de manière renouvelée dans la présence de Dieu. Lorsque l'on met sa foi dans la personne de Jésus, parfois, en tant qu'évangélique, on aurait tendance à dire qu'il y a différents types de foi ou qu'il y aurait différentes qualités de repentance qui feraient que mon salut serait de meilleure qualité. Ce n'est pas la quantité de foi qui sauve, mais c'est son objet, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous sauve, en qui nous plaçons notre confiance pour notre salut. Et pour illustrer ça, j'aime bien recourir à cette image, à l'image d'un couple qui monte dans un avion. Vous savez, il y a parfois, au sein des couples, des perceptions assez différentes du décollage. Hein, vous avez d'un côté le monsieur qui est très sûr de lui et qui joue un peu son rôle de mâle, et peut-être parfois madame qui est plus inquiète et qui, lorsque l'avion se met à frémir, connaît quelques inquiétudes intérieures. C'est l'inverse chez vous ? Ben oui, chez moi c'est l'inverse. C'est chaque fois que je... Effectivement, parce que voilà... Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est de se dire qu'au sein de ce couple, les deux ont mis leur confiance dans le commandant de bord. Et au final, que l'un ait une grande confiance dans le commandant de bord et l'autre très peu, ils vont arriver à bon port parce qu'ils sont montés dans l'avion. Et cette image illustre bien ce qui se passe lorsque nous mettons notre confiance dans la personne de Jésus. Ce n'est pas le degré de notre enthousiasme au moment de notre conversion, ce n'est pas la profondeur de notre repentance qui va faire que nous allons arriver à bon port. C'est le fait que, et l'un et l'autre, nous avons mis notre confiance dans la personne de Jésus. Et l'un et l'autre, nous nous reposons sur Jésus, le Christ. Alors concrètement, qu'a fait ce Jésus pour être ainsi l'auteur d'un tel salut? Lorsque l'on regarde le grand récit biblique, vous savez, la grande image que propose la Bible, on découvre que Jésus est celui qui donne sa vie pour ses amis. En mourant à la croix, il prend le châtiment du péché sur lui. Et dans l'Ancien Testament, vous le savez, les Israélites devaient offrir régulièrement des sacrifices à Dieu dans le temple à cause de leurs péchés. Et Jésus vient comme une sorte de sacrifice unique, opéré une fois pour toutes à la croix pour purifier notre péché. Il meurt comme le seul agneau sans tache et il purifie tous ses amis de leur indignité et de leur péché devant Dieu. Ce n'est pas la seule manière de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Je vous en propose une autre en lien avec le thème de l'exil et du retour au pays. Et c'est aussi un thème qui traverse l'entier du grand récit biblique, l'entier de la grande image que propose la Bible. Si on prend Adam et Ève, ils connaissent déjà l'exil, ils sont chassés du jardin d'Éden. Et ils vivront en exil à l'extérieur. Si vous prenez tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte, ils connaissent aussi une certaine forme d'exil pour aller en Canaan, pour vivre 40 ans dans le désert. Et cette thématique revient régulièrement tout au long de l'histoire d'Israël. En 587, lorsque Jérusalem est conquise, eh bien... il en va de même, il y a un exil qui s'opère, on s'éloigne des sécurités de la foi. Jésus lui-même aussi connaît cette réalité-là lorsqu'il est cloué sur le bois de la croix. Et là, dans l'horreur de sa mort, il va jusqu'à dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a là comme une sorte de perception extraordinaire de ce statut d'exilé, un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, un sentiment de perte de sens. Jésus connaît ce ressenti de l'absurde de la vie. Comme certains d'entre nous, il goûte à ce sentiment de non-sens et d'abandon. Il n'y a plus de communion avec Dieu, avec les autres et avec le monde. Jésus se découvre seul. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie de Jésus, c'est que cette solitude ou ce sentiment d'abandon n'est pas la fin. Ce n'est pas le mot ultime sur la vie de Jésus de Nazareth. Dieu ressuscite Jésus. Il ressuscite son Fils. Il le ramène de la mort à la vie et ce faisant, il brise le pouvoir de l'abandon, de la solitude et de la mort pour nous ouvrir à la communion éternelle, à un face-à-face extraordinaire avec le Seigneur Tout-Puissant. La religion dans notre monde est l'indice de l'exil. Nous ne sommes plus en communion avec Dieu et nous essayons de mettre en place toute une série de choses qui vont nous permettre de faire pour exister devant cette image que nous nous constituons de la divinité. Ce sentiment d'exil nous pèse, cela nous leste, et nous nous accrochons à ce que nous pouvons. Au milieu de la falaise de l'existence, nous nous accrochons aux branches et aux rochers qui nous permettront d'aller plus haut. Nous avons besoin de fonder notre existence sur nous-mêmes. Et de manière concrète, Jésus de Nazareth veut nous sortir de cette dynamique de l'exil qui consiste constamment à fonder notre existence sur nous-mêmes. Il nous offre son passeport, un passeport blanc à croix rouge qui témoigne du fait que notre identité se fonde en lui et que nous pouvons jour après jour vivre de sa grâce et entrer dans son pays. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Vous savez, le message de l'évangile de Jésus-Christ est extraordinaire. Il est unique. Il a toujours quelque chose de révolutionnaire à nous apporter, à nous-mêmes et à nos contemporains. Il est une bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, une bonne nouvelle de libération et de liberté pour ceux qui l'acceptent. Libération du péché et d'un profond sentiment d'indignité. Libération d'un sentiment d'exil et d'abandon. Puis liberté de marcher dans la vie sans avoir besoin de faire pour être. Chers amis, le savez-vous ? Jésus nous accepte tels que nous sommes. Il nous fait cadeau à chacun de sa vie pour autant que nous l'acceptions. Il nous fait ce cadeau pour que notre vie reflète la sienne. Avez-vous envie de cette vie ? Souhaitez-vous la recevoir ? Vous savez, c'est possible de le faire maintenant. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence, puis après je prierai. Seigneur, j'aimerais te remercier ce matin parce que tu nous confrontes tout à nouveau avec la radicalité de ton évangile. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Nous n'avons rien à avancer devant toi pour nous prévaloir de quelque chose. Nous sommes vraiment indignes de toi. Mais c'est toi qui nous rencontres, c'est toi qui nous tends la main, c'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous permets de lever les yeux vers toi et de te dire tout simplement, Papa. Seigneur, sois béni pour ceux qui ce matin ont décidé de se remettre en route ou de se mettre tout simplement en route pour découvrir la réalité du fait d'être fille ou fils du Dieu vivant. Amen.
Dans les évangiles, Jésus dit à différentes personnes « Ta foi t'a sauvé ». Des personnes qu'il a croisées, des personnes qu'il a guéries, des personnes qu'il a sauvées. Il nous le dit aussi à nous aujourd'hui « Ta foi t'a sauvé ». Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, il nous appelle, nous aussi, à croire en lui, à croire en son sacrifice, mais aussi à croire à sa résurrection. Aujourd'hui, il nous appelle surtout à le proclamer, à le confesser par notre bouche, par nos actes. À l'image, par exemple, des baptêmes qu'on a vécu dimanche passé. Et maintenant, avec ce temps de Sainte-Cène, nous sommes invités à partager ce pain et ce vin. Ce temps de repas en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est aussi une manière de témoigner et de dire « Je crois, je confesse ton nom, Seigneur Jésus, toi le Christ. » Alors je lis l'institution de la scène que nous allons partager tout à l'heure. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus de fruits, du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Seigneur, ce matin, c'est un privilège de pouvoir participer à ton repas. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler et visualiser devant nous que c'est toi qui es mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir ce matin m'approcher de toi et te dire, Seigneur, je ne suis rien, mais c'est toi qui me purifie, c'est toi qui me visite, c'est toi qui me donne ton esprit. Et Seigneur, que tu nous accordes au travers de ce repas d'être renouvelé par ta présence. Amen.
Alors nous allons passer dans les rangs avec le pain et le vin. Comme d'habitude, sur les plateaux, les petits gobelets de couleur au centre, c'est du jus de raisin, et autour, c'est du vin. Si vous désirez communier avec la coupe, il faut simplement faire signe, nous nous approcherons. Et pendant ce temps-là, qu'on puisse poursuivre cette réflexion, ce qu'on a reçu de cette foi qui nous sauve, de ces œuvres qui ne conduisent à pas grand-chose, de changer ce fonctionnement par défaut. Merci Seigneur de pouvoir partager ce pain, ce vin ensemble, librement. Aide-nous à réaliser le prix que tu as payé pour que nous puissions vivre ce temps ensemble aujourd'hui. Et merci parce que tu nous promets de pouvoir partager de nouveau ce repas avec toi bientôt dans ton royaume. Merci de ces paroles que nous voulons croire, auxquelles nous voulons nous attacher, et que tu fasses grandir notre foi dans nos cœurs à chacun. Et merci parce que l'objet de notre foi est lui-même plus important que la quantité ou que la taille de notre foi. Amen. On va poursuivre avec le temps de l'offrande. Nous sommes appelés à donner une partie de ce que nous avons pour le service du culte, mais aussi pour les missions, auprès comme au loin, alors que nous puissions donner en fonction des moyens que nous avons, que Dieu nous donne. Et surtout, nous sommes aussi appelés à nous consacrer à Dieu, pas simplement notre argent, mais qu'il puisse nous remplir de sa présence d'amour et que nous puissions lui appartenir. Et on va le faire en chantant ce chant qui dit « Je te veux dans mon cœur ».
Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent, j'avais tellement peur, mais maintenant, je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Viens t'emporter dans ce torrent d'amour. Je veux sentir tes bras qui m'entourent, je veux plonger mon cœur dans le tien. Tu es mon Dieu et je t'appartiens. Je t'appartiens.
Je vais prier encore pour cette offrande. Merci Seigneur de pouvoir te dire « Je t'appartiens ». Merci Seigneur parce que tu nous utilises chacun à ton service de différentes manières. Et merci de pouvoir te consacrer cette partie de notre argent qu'il puisse servir à ce que ta parole soit proclamée ici, au loin, qu'il puisse servir à ce que ton royaume vienne. Que tu bénisses et remplisses de sagesse ceux qui vont le gérer et ceux qui vont en bénéficier. Amen. Alors avant les annonces, Serge va nous présenter également un volet important de la fraie. Je laisse la parole.
Je suis venu ce matin avec une question à vous poser, une de plus. Amen, a dit quelqu'un. Yes. Qui d'entre vous a eu l'occasion de suivre la formation au service dans l'Église ou ce qui s'appelle actuellement le Free College? Ah oui, il y en a quand même quelques-uns, 6 qui lèvent la main. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes que ça. Je me disais, là, Mérin, il doit y avoir au moins les 3/4 de la communauté qui ont suivi le Free College. Vous savez, aujourd'hui, le fait d'être chrétien évangélique dans notre société n'est pas quelque chose d'évident. Qu'est-ce qu'on sait du monde dans lequel Jésus a vécu? Comment faut-il comprendre le sermon sur la montagne? Mais là, bon, j'imagine, vous avez été un peu briefé, donc vous devez être pas mal au point avec Claude Bécher. Comment comprendre les récits de la nativité, les récits de la naissance de Jésus? Des légendes ou des vérités à fondement historique? Jésus se considérait-il comme Dieu? Était-il au clair sur son identité? Comment a-t-il compris sa propre mort? Sa résurrection est-elle un événement historique? Repose-t-elle dans la conscience de disciples qui ont eu peur à un certain moment et qui finalement étaient très surpris par le fait qu'il est revenu à la vie? Qu'est-ce que cela signifie que de confesser Dieu comme Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit? Que penser des dons spirituels? Comment les pratiquer? Alors, voilà le programme du Free College de cette année. J'ai mis sur, ou nous avons mis sur vos sièges, une chaise sur deux, le programme de cette année. Et j'aimerais vraiment vous encourager, des plus jeunes aux plus âgés, à réfléchir à la possibilité de vous inscrire à ce programme de formation. On voit rien du tout, excusez-moi, je ne suis pas très bon. Mais vous avez sous les yeux, si vous mettez vos lunettes comme moi, vous avez le programme. Et vous pouvez voir la richesse de ce programme pour cette année qui vient. Et sincèrement, moi, j'ai toujours du plaisir à essayer d'inviter des gens qui sont vraiment au top. Vous voyez, par exemple, l'Évangile de Jean, Nicolas Farelli, ce sera à Coligny. C'est pas très loin, Coligny. Hein, suffit de traverser Genève un samedi matin, c'est cool. Hein, on traverse le pont du Mont-Blanc en deux temps, trois mouvements. Vous êtes d'accord? Et là, on a un monsieur qui s'appelle Nicolas Farelli, qui est sûrement le futur professeur de Nouveau Testament à la fac de Vaud, qui vient de publier un petit bouquin sur le sujet. Donc c'est l'occasion, et je crois que tout le monde aime l'Évangile de Jean, c'est l'occasion, au travers d'une journée, de voir un peu comment comprendre de manière renouvelée cet Évangile. Si vous vous intéressez au récit de la naissance de Jésus, à toutes les questions que l'on peut se poser au travers de ces récits-là, peu avant Noël, vendredi 7 et samedi 8 décembre, on aura la possibilité d'accueillir, alors à l'Auberçon cette fois-ci, c'est un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus compliqué d'y accéder, mais je vous promets, les jeunes voix qui viennent au Free College y arrivent toujours. Pardon ? Il y a des doutes ? Non, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu laborieux de traverser un vendredi soir la Suisse romande, en tout cas jusqu'à Yverdon. Mais en général, vu qu'on commence à 20h, les Genevois y arrivent et on peut vraiment, grâce à Henri Blocher, se replonger dans cette réflexion de savoir comment comprendre aujourd'hui les récits de la naissance de Jésus. Donc il y a tout au long de cette année, autour du thème Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il y a un programme qui, à mon sens, en vaut la peine et que je vous encourage à suivre. Et c'est vraiment ça, mon désir, et l'un des objets de ma venue ce matin, c'est de vous encourager. Vous savez, la foi évangélique, ce n'est pas un saut dans le vide où on dit « Oups, il n'y a aucun fondement pour croire ce qu'on croit ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Il y a toute une série de théologiens qui sont souvent excellents et extraordinaires, qui méritent d'être connus et qui nous permettent d'approfondir tous ces thèmes et de voir comment est-ce qu'on peut être nourri dans sa foi au quotidien au travers d'une réflexion conduite par des pasteurs de nos églises, mais aussi des théologiens d'envergure qui nous viennent notamment de France. Alors je vous invite à prendre, j'en ai encore toute une série hein, au fond, on en a encore bien assez, donc si vous souhaitez en avoir, je vous invite à en prendre un et à réfléchir devant le Seigneur à la possibilité de vous inscrire à cette formation. Et on encourage vivement les églises locales, et là c'est la commission formation de l'AFRE qui le fait, et pas que moi, à ce que votre église locale participe aux frais d'écolage de cette formation, donc à l'équipe de responsables de prendre ses responsabilités. Autre chose, dans la dynamique de formation de l'AFRE, on essaye de vous proposer toute une série de choses et on a un nouveau produit là, produit c'est un grand mot, mais une nouvelle série sur les couples. Et on a la joie d'avoir dans nos églises un pasteur, Christian Reichel, qui est en même temps conseiller conjugal et qui nous fait une série de 10 émissions de TV d'une quinzaine de minutes avec à chaque fois une fiche qui permet de discuter en couple de toute une série de questions. Et je vous promets, c'est du lourd, comme on dit. C'est bien, peut-être que les gens un peu de ma génération ont été passablement bassinés par les soirées nous. Hein, ça dit quelque chose à quelqu'un, c'est les soirées aménagées en couple pour discuter de la vie commune. Je crois que c'est important. Et vous avez là un excellent outil. Il y en aura 10, j'imagine, d'ici la fin de l'été. 10 occasions de vous retrouver à deux, de regarder pendant 15 minutes sur un sujet, communication, un couple de personnalités, faire son bilan de couple, etc. Et je vous promets que c'est bien et que Christian nous amène, sous le regard du Seigneur, des choses qui sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du Free College, hein, c'est lafre.ch, puis vous regardez, vous cherchez un peu Free College et vous trouvez. C'est aussi free-college.ch, vous y avez accès directement. Il y a là toute une série de ressources qui sont pertinentes. Il y a un parcours sur le Sermon sur la montagne qui est animé par Claude Bécher avec 18 émissions magnifiques, avec chaque fois des fiches. Vous pouvez utiliser ça et c'est lafre qui le met à votre disposition gratuitement. Bon. grâce à votre soutien, bien entendu. Merci beaucoup.
Voilà pour les annonces. Alors, demain soir, le colloque avec l'élection de nouveaux conseils. Si vous avez des questions par rapport à ces élections, comme il y en a déjà une ou deux ce matin, adressez-vous à un des membres de la commission, Harry Meyer, entre autres, si vous avez des questions. À 20h15, oui, alors, important, venez le plus nombreux possible. Mardi soir, dernier atelier biblique de cette série autour du culte, à partir de 19h30, petite collation, et 20h, le travail proprement dit. C'est très intéressant et c'est la dernière de cette série, alors profitez-en. À partir de dimanche prochain, donc, c'est les cultes en alternance avec la paroisse protestante. Alors, il y a des flyers à disposition, ils sont au fond, vous les trouverez à la sortie. Le thème, marcher dans la grâce, venez nous rejoindre sur la route. Voilà, pour vous faire envie. Je vous lis juste un ou deux sujets. Croiser la grâce pour remarcher, ça c'est Claude Becher dimanche prochain. Il y aura avancer, ceinture mise et crissement de pneus. Sur la route, la grâce qui renverse. Une descente, signe d'une grande complicité, voilà, pour vous faire envie de venir à ces cultes. Donc, dimanche prochain, au CEPOM, au centre protestant, vers le forum Mérin, sur la place, à 10h, comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de culte ici, et après, en alternance. Donc, prenez les flyers, si vous voulez, je pense que vous allez les recevoir aussi par mail. Après, comme d'habitude, les grillades, le mercredi dès 19h sur le terrain à l'Advent, il y en aura 4. Petite nouveauté cette année, celles du 25 juillet et du 15 août seront précédées par une courte célébration. Il y en a qui ne peuvent vraiment pas venir le dimanche, mais il y aura une petite célébration qui va durer à peu près une demi-heure avant les grillades. Donc à 19h aussi. Il y a aussi des flyers que vous pouvez prendre avec les dates. C'est l'occasion aussi de remercier Nicolas Berrou pour, j'allais dire la centaine, mais je pense les milliers de flyers qu'il nous a déjà fait et qu'il nous fait chaque fois. Merci beaucoup, Nicolas. On cherche toujours, enfin Anne-Claude cherche toujours des renforts pour la garderie du dimanche. Anne-Claude, c'est c'est qui joue de la flûte, c'est la flûtiste, voilà. Et plus il y a de monde, moins ça revient, voilà. Plus les dimanches où vous êtes de service sont espacés. Une dernière fois, on vous rappelle qu'il vaut mieux pas se stationner là-bas parce que ça coûte un peu trop cher. Encore une ou deux annonces quand même. Alors, une bonne nouvelle, Patrick et Anne-Laure Fuchs-Laure sont devenus, encore une fois, grands-parents. Adrien et Anouk, qui sont maintenant à Lausanne, ont eu un petit garçon, Robin, qui est né le 14 juin. Il est né un peu trop tôt, mais il paraît qu'il va bien, les parents et les grands-parents aussi. Alors, Claude.
Oui, donc on vous a parlé de la garderie du dimanche, mais je vous propose en sortant, il y a une exposition de la garderie de la semaine, donc de la framboise. Des enfants ont fait des travaux donc sous l'égide des éducatrices et ils sont exposés le long des portes. Alors, jetez-y un coup d'œil. C'était l'occasion aussi pour une rencontre avec les parents.
Vous avez peut-être, si vous avez cherché Philippe Anchaud ce matin, vous avez vu qu'il n'était pas là. S'il n'est pas là, c'est qu'il est à Lausanne. Ce matin, il est invité à l'église des Trois Rois. L'hiver passe à Noël, il était l'orateur du camp de ski et quelques jeunes qui participaient au camp sont membres de cette église et ils ont invité Philippe pour le culte de ce matin. Alors Philippe était très heureux d'aller faire le culte dans cette église. Voilà pourquoi il n'est pas là. Par contre, Heidi est là et elle a une petite annonce à faire.
Merci. Donc, c'est l'été, il paraît. Et pendant l'été, je pense que vous avez peut-être plus de temps pour lire des choses dehors, sur un banc, au bord de la piscine ou sur son balcon, dans son jardin. Donc, juste pour vous rappeler que l'église a une bibliothèque. Il y a des livres donc qui sont à disposition. Et à la fin du culte, donc, on va l'avancer ici. Vous pouvez venir voir ce qu'il y a, emprunter des livres pour l'été. Il y a des trucs light, hein, pour ceux qui veulent lire sans trop réfléchir. Il y a des trucs un peu plus costauds. Il y a des livres en anglais pour ceux qui veulent réviser leur langue étrangère pendant l'été, en allemand. Donc voilà, il y a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, après le culte, à venir choisir quelque chose pour l'été. Paul.
Santosh.
Voilà, bonjour. Je voulais juste faire une petite annonce. Pas cette semaine, la semaine prochaine, il y a la semaine du centre aéré du réseau Genevois évangélique, potentiel. Il y a des jeunes qui vont s'engager. Moi, je vais aussi faire pour les adolescents. Merci de prier aussi pour cette semaine. Je pense que c'est une semaine importante aussi pour l'unité des églises évangéliques à travers les enfants. On peut encore s'inscrire pour les enfants sur le site de Potentiel. Voilà, merci. Et je ferai juste une petite remarque. Je remercie aussi Catherine qui nous a conduits pendant tant d'années pour la louange. C'est son dernier culte officiel de louange, donc on peut l'applaudir.
Encore une petite merci et bravo aux jeunes pour le petit déjeuner qu'ils nous ont préparé ce matin. En faveur de leur camp. Et peut-être juste dire que les personnes qui ont commandé des tresses, n'oubliez pas de les prendre. C'est ce que vous avez commandé, que les jeunes ne se retrouvent pas avec à manger de la tresse toute la semaine.
Alors, je vous invite à vous lever. En guise de bénédiction à la fin de ce culte, j'aimerais vous relire ce passage central de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Seigneur, que vraiment cette parole de l'apôtre Paul puisse nous habiter pendant toute cette semaine, qu'elle puisse travailler nos vies et nous renouveler les uns et les autres. Que ta bénédiction repose sur chacun, que nous puissions partir ensemble dans la force de ton esprit. Amen. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une bonne semaine.